C'est l'heure du journal de Christelle Rebière. Bonjour Christelle.
Bonjour à tous.
Avec à la une ce matin, la France qui ne décolère pas après le torpillage du contrat australien sur les sous-marins. La France qui rappelle donc ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie. On est en pleine crise diplomatique et on y revient après les autres titres, Christelle.
La mort de l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika à l'âge de 84 ans. Il avait passé 20 ans au poste suprême, mais il avait fini par en être chassé par la rue. 50 millions de vaccinés, les trois quarts des Français, mais les réfractaires se radicalisent. En Guadeloupe, des médecins sont menacés de mort. Un voyage en train pour un voyage dans le temps, c'est ce qui fait le charme des Journées du patrimoine. Nous vous emmènerons faire un tour dans l'Orient Express.
Et à 8h20, notre invité, Éric Ciotti, le député Les Républicains et candidat pour représenter son parti à la prochaine présidentielle.
France Inter.
Cette fois, la crise diplomatique tourne à la fracture ouverte. La France, qui ne digère pas l'annulation du contrat du siècle sur les sous-marins par l'Australie, rappelle ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie. C'est tout simplement une décision sans précédent vis-à-vis des deux alliés historiques, exceptionnelle et justifiée, d'après le Quai d'Orsay, par la gravité des annonces du 15 septembre. Une décision annoncée par le président Emmanuel Macron alors qu'il participait hier à un sommet en Grèce. Nathanaël Charbonnier.
Sur l'échelle du mécontentement rappelé en ambassadeur, cela montre que l'on est vraiment, mais alors vraiment pas content. Concrètement, cela veut dire que les Australiens et les Américains, pendant les jours, voire les semaines à venir, n'auront plus d'interlocuteurs capables de parler au nom de la France dans leurs pays respectifs. Dans les faits, la mesure suit un protocole bien précis. Australiens et Américains ont été prévenus quelques heures avant que l'annonce officielle soit faite. Nos deux ambassadeurs ont alors pris le premier avion pour Paris. Ils seront reçus par le ministre des Affaires étrangères, mais aussi par le président de la République. Ils ne repartiront enfin que lorsqu'Emmanuel Macron estimera que des signes d'apaisement auront été envoyés par les Australiens et les Américains. Le rappel d'ambassadeurs est assez rare. Ces dernières années, deux autres cas ont eu lieu avec l'Italie et la Turquie. On notera enfin la petite humiliation faite aux Anglais, eux aussi impliqués dans la trahison australienne. L'ambassadeur français en Angleterre n'a pas été rappelé. Une façon assez cinglante de dire que dans cette affaire, les Britanniques ne représentent pas grand-chose. À Athènes, Raymond Albouy, Nathanaël Charbonnier, France Inter.
Et les États-Unis espèrent pouvoir évoquer avec la France leurs différends dans la crise des sous-marins la semaine prochaine à l'ONU, où se rendra Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. Il aimait tant le pouvoir qu'il avait fallu que la rue l'en chasse. L'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika est décédé hier soir à l'âge de 84 ans dans sa résidence médicalisée près d'Alger, où il s'était retiré depuis son départ forcé du pouvoir en 2019. Le Irak avait eu raison de sa détermination à briguer un 5e mandat, alors même que son AVC avait fait de lui l'ombre de lui-même. Bouteflika est l'homme qui aura passé le plus de temps au poste suprême, 20 ans, à partir de 1999, au sortir du cauchemar de la guerre civile. Le sociologue Nasser Djabi détaille sa vision très personnelle de la fonction suprême.
Il se considérait toujours comme le deuxième homme après Boumdine. Donc il pensait que après la disparition de Boumdine, c'était à lui que revient la présidence. Donc ça n'a pas marché pour lui entre 79 et jusqu'en 99. Donc Bouteflika travaille dans le sens où il ne veut plus quitter le pouvoir tant qu'il est vivant. Il est issu de sa génération des années 60-70, qui pour eux, le pouvoir c'est un pouvoir absolu et à vie. On est devant un système politique où le président règne comme un roi. Il est le président du FLN. Il est le sommet de l'exécutif, le chef d'État. Il gère la politique extérieure. Il est ministre de la Défense. Il nomme les ministres. Bouteflika ne s'est jamais adressé au Parlement. Bouteflika n'a jamais fait de conférence de presse avec des journalistes algériens. Il a changé de constitution sans aller voir les parlementaires qui ont voté cette nouvelle constitution.
Le sociologue Nasser Djabi au micro de Leïla Barato.
50 millions de Français vaccinés, c'est le cap symbolique qui a donc finalement été franchi hier avec deux bonnes semaines de retard sur le calendrier du gouvernement.
Mais il y a de grandes disparités sur notre territoire et aux Antilles, on en est seulement à assouplir lundi prochain le dernier confinement. Là-bas, les autorités sanitaires et préfectorales doivent faire face à une forte mobilisation des antivax. Face à la multiplication d'insultes en Guadeloupe et de menaces de mort, elles ont déposé une dizaine de plaintes. Parmi les plaignants, Gérard Cotelon, directeur du CHU de Guadeloupe, il répond à Hélène Chevalier.
J'ai reçu des menaces de mort de la part d'un leader syndical du CHU, hein, des menaces de mort de la part d'un autre individu avec une vidéo qui est devenue virale, qui a circulé beaucoup sur WhatsApp, et puis une lettre anonyme où on annonçait mon avis d'obsèque. Donc j'ai porté plainte parce que j'insiste à la vaccination, parce que je m'oppose aux personnes anti-vax qui sont très actifs et parce que sur le territoire, il y a des militants syndicaux, politiques très actifs et que moi, je dis ce que je pense. Hein, voilà, je dis ce que je pense, donc ça déplaît aux gens. J'ai un médecin qui a été frappé par le petit-fils d'une patiente qui est arrivée dans un état assez détérioré. Elle va probablement mourir. Et ce petit-fils agresse le médecin parce qu'il estime que le médecin ne donne pas le bon traitement. Et que le bon traitement, c'est de mettre les patients sous ivermectine et sous hydroxychloroquine. L'atmosphère est totalement irrationnelle. Irrationnelle.
L'incompréhension du directeur du CHU de Guadeloupe dans la métropole, comme chaque samedi. On attend 180 cortèges d'anti dans tout le pays aujourd'hui, mais la mobilisation est à la baisse depuis plusieurs semaines. En politique, le PS doit entériner la réélection d'Olivier Faure au poste de premier secrétaire et son projet pour 2022. Il soutient ouvertement Anne Hidalgo. Éric Zemmour affrontera prochainement Jean-Luc Mélenchon. Il l'a annoncé hier soir à Toulon lors d'un meeting qui ne disait pas son nom. Il ne révèle pas ses intentions, mais s'amuse à se dire candidat au débat. 22 secondes de son insoutenable hier au procès des attentats du 13 novembre, celle des premiers tirs au Bataclan. La semaine a été éprouvante avec le compte-rendu méthodique des enquêteurs sur les différentes scènes de crime. Mais leurs dépositions sont aussi l'occasion de couper court à des rumeurs persistantes, même près de 6 ans après, sur ces attentats. Charlotte Piret.
Alors qu'il est en train d'évoquer l'identification des corps des 90 victimes du Bataclan, l'enquêteur s'interrompt, précise, martèle même. Toutes les blessures de toutes les victimes sont des blessures par balle. Et s'il insiste tant, c'est parce que la rumeur d'égorgement dans le Bataclan a émergé très vite après les attentats du 13 novembre. Compte tenu de l'état délabré des corps qu'un policier ait cru voir un acte de mutilation est parfaitement compréhensible, explique l'enquêteur à la barre. Mais alors que toutes les victimes ont été autopsiées, qu'aucun couteau n'a été retrouvé dans la salle de concert, la rumeur persiste encore aujourd'hui. Tout comme celle d'un quatrième terroriste dans le commando du Bataclan. On voit 3 individus s'extraire du véhicule, rappelle l'enquêteur. Les corps de 3 kamikazes ont été retrouvés, 3 voix identifiées sur l'enregistrement audio de l'attaque. Mais certains avocats de partie civile insistent. J'ai des clients qui ont vu 4 hommes dans la voiture. Il y a des témoignages sur YouTube aussi. L'enquêteur s'agace un peu. Je me fie aux constatations quant aux témoignages. Sur 3 personnes qui ont vu la même scène, on aura 3 perceptions différentes. 6 ans après, le besoin de clarification est encore là.
Compte rendu d'audience Charlotte Piret, vous pouvez retrouver un dossier sur cette audience sur notre site franceinter.fr.
Hier, Christelle, on célébrait les 40 ans du TGV. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'Orient Express qui fait l'événement à Lille.
Oui, à l'occasion des Journées du patrimoine, on peut le découvrir à la gare de Lille-Flandre et même monter à bord de ce train mythique né en 1883 sur une première ligne Paris-Constantinople. Les chanceux qui ont réussi à décrocher l'une des 1500 places visitent les 7 voitures reconstituées au fil de l'histoire du train. Sophie Morland s'est glissée parmi eux.
Bienvenue dans l'Orient Express, le roi des trains, le train des rois. Alors, ce train.
Même si le train reste à quai, c'est parti pour un voyage dans le temps, un siècle de légende qui débute en octobre 1883. Le voyage inaugural entre Paris et Constantinople, c'est Laurane Corneau, historienne de l'art, qui raconte.
Uniquement des hommes, impérativement armés. C'est le danger du voyage, c'est l'excitation de ce long voyage. On va faire 3094 kilomètres pour...
Les voitures évoluent au fil des modes et des années. Nous voici dans le train bleu qui a inspiré Agatha Christie. À bord, Antoine ouvre grand ses yeux.
Ce train-là, je le voyais passer quand j'étais plus jeune. C'est vrai qu'en vrai, ça rend encore pareil. Ce qu'on peut imaginer en fait, du luxe, c'est vraiment magnifique.
Il manque plus qu'une chose, c'est qu'ils se mettent en route et qu'ils nous emmènent à...
C'est ça, très loin.
Et sur le quai, Annie admire les wagons bleus et or, seulement de l'extérieur, à son grand regret.
Oh, ah oui, ça nous fait rêver. Ouais, c'est un train mythique. Puis ça fait penser aux écrivains Agatha Christie. Il y a l'imaginaire qui travaille, quoi.
Installé dans les immenses fauteuils, on se prendrait d'ailleurs presque pour James Bond dans Bon baiser de Russie. La tête bien calée, impossible de finir comme dans le TER sur l'épaule de votre voisin.
Sophie Morland de France Bleu Nord. C'est donc complet, hein, mais vous pouvez tout de même admirer le train de l'extérieur, quai numéro 10, à la gare de Lille-Flandre, jusqu'à demain.
Ou relire Agatha Christie, effectivement. Ah oui. C'était le journal de Christelle Rebière. Le temps de ce samedi.
La météo avec Via Santé. la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Avec des pluies qui arrivent par l'océan, Jean-Michel Golinski.
Effectivement, actuellement il pleut entre la Bretagne et l'Aquitaine. En journée, ces pluies vont lentement gagner vers l'intérieur, gagnant cet après-midi la Normandie, le bassin parisien, le centre, le massif central et l'Occitanie. Des pluies faibles dans la partie nord, mais plus marquées, parfois teintées d'orage dans la moitié sud. Dans des températures plus basses qu'hier, le maximum sera de 19 cet après-midi à Brest et Limoges. Il fera 20 sur le Midi-Pyrénées et de Cognac à Rennes. Il est prévu 23 à Bourges ainsi qu'à Paris. Plus au nord et à l'est, c'est-à-dire en regardant vers la Belgique, les frontières de l'est et sur les régions méditerranéennes, le soleil sera souvent généreux. Il va maintenir les thermomètres aux environs de 23 à 25 degrés des Hauts-de-France au Grand Est jusqu'à Rhône-Alpes et vers 27 du côté de Nîmes, d'Ajaccio et de Marseille.
Jean-Michel Golinski, Météo France.